Octave Mirbeau, Des artistes, saison 2, le portrait de sa femme. Monsieur le président Toutet, flanqué de ses deux juges, vient d'inventer un nouveau moyen de faire fortune. Ce moyen est simple à pratiquer et la réussite en est certaine. Il consiste à faire faire le portrait de sa femme par un peintre en renom. Voici comment vous devez opérer légalement. Je dis légalement car ce moyen a force de loi depuis jeudi. Vous commandez le portrait de votre femme à un peintre avec qui vous entretenez des relations d'amitié. Il importe que ce peintre soit habilement choisi parmi ceux dont la réputation est universelle et dont les tableaux atteignent les plus hauts prix. Et vous lui dites, avec une émotion cordiale, en l'accablant de poignées de main généreuses et attendries, « Je n'ai pas la prétention de vous payer le portrait de ma femme, ce qu'il vaut. Non, certes, si je le payais au prix que je l'estime, ma fortune, qui est considérable pourtant, n'y suffirait point. » Sur un geste de modestie protestatrice, vaguement ébauché par le peintre, vous accentuez vos déclarations. « Non, non, elle n'y suffirait point. Ni celle de mon oncle, ni celle de mon banquier, ni celle de personne n'y suffirait point. Que diable, je sais à qui je parle. Votre talent, votre génie, oui, votre unique génie, que... » Ici, votre enthousiasme s'exagère jusqu'à l'ampleur muette d'un geste qui embrasse l'univers. Après quoi, vous continuez sur un ton plus intimement ému. « Je suis votre ami. Vous êtes mon ami. Nous sommes tous de très chers amis, ensemble. Ce sera donc, si vous le voulez bien, un portrait d'ami que vous ferez de ma femme, une esquisse, un rien, un souvenir. » 3 ou 4 coups de brosse, comme ça, très enlevés. Alors, que penseriez-vous de quelque chose allant de 2 600 à 3 600 francs, par exemple? C'est peu, je le reconnais, c'est même rien du tout, je l'avoue. Je sais que, en d'autres circonstances, ma proposition serait d'un ridicule offensant. Mais, entre amis, entre les excellents amis que nous sommes... Le peintre fait une moue dont la psychologie se peut résumer par cette réflexion intérieure. Vous n'êtes guère généreux, mais il me répugne de discuter une affaire avec quelqu'un qui m'accable de démonstrations si amicales. Si vous étiez un amateur, je vous enverrais promener, courtoisement. Le diable veut que vous soyez mon ami. Faisons donc le portrait, jusqu'à la lie. Et il commence ce portrait. Les séances se succèdent durant des mois, et il en est, comme vous l'aviez prévu, un admirable chef-d'œuvre. Survient, en ces temps, je suppose, la fête du peintre, ou tel autre événement propice à de plus substantielles expansions. Par un sentiment de délicatesse qui, dans la suite, devra vivement toucher le cœur, le poétique cœur du président Toutet. Vous profitez de ce jour heureux pour remettre entre les mains du peintre une enveloppe cachetée, une immense et lourde enveloppe cachetée, et vous accompagnez cette solennelle remise d'un sourire mystérieux, d'une effusion de reconnaissance, d'étreinte prolongée. À peine si l'émotion peut vous permettre de prononcer ces paroles. « Ah, cher, cher, cher grand ami !» Faites-moi cette joie, cette merveilleuse joie de n'ouvrir cette enveloppe, et vous en faites discrètement apprécier le volume et le poids, cette enveloppe que ce soir, chez vous, à 8 heures, au milieu de votre famille. Promettez-moi, jurez-moi que cette enveloppe, et vous la soupesez encore, vous la garderez intacte jusqu'à ce soir. Je désire, je veux que, ce soir, au milieu des vôtres, vous jouissiez, oh, si profondément, de la surprise que je vous ai mise, là, dans la main. » Mais ces paroles que les lèvres n'ont pu achever, le regard les a dites, et bien d'autres encore, avec quelle éloquence. Elles sont dans le sourire mystérieux, dans l'effusion de reconnaissance, dans les étreintes prolongées et cessées à regret. Et tandis que le peintre, avec précaution, avec respect, introduit dans sa poche la précieuse, large et lourde enveloppe, il ne cesse de se répéter « Vraiment, quel charmant et délicat ami !» Le peintre rentre chez lui, et le soir, à 8 heures, au milieu des siens, suivant votre désir si chaleureusement exprimé, il déchire l'enveloppe, et, ô surprise, d'un épais matelas de papier et de carton, il en sort quoi ? Un chèque de 2 600 francs. Vous lui aviez dit, que penseriez-vous de quelque chose allant de 2 600 à 3 600 francs ? Mais vous êtes resté en route, et c'est là qu'était la surprise dont il devait tant se réjouir le soir, à 8 heures, en famille. Le peintre trouve d'un goût douteux cette comédie de sourires mystérieux et de regards reconnaissants, et d'effusions enthousiastes, et cette insistance à lui faire palper les 20 papiers de l'enveloppe. Il vous écrit aussitôt une lettre, courtoise encore, mais où les remerciements se hérissent d'une fine et piquante ironie. Alors vous vous fâchez, vous rompez la chère amitié, vous réclamez brutalement le portrait, vous exigez, avec des menaces, que le portrait vous soit envoyé le lendemain. Naturellement, le peintre regimbe et déclare que, du moment où vous n'êtes plus son ami, vous avez repris votre qualité d'amateur et devez payer le portrait comme le paient les amateurs qui ne sont pas des amis. L'affaire se complique, et d'avoués en huissiers, elle arrive jusqu'au tribunal où le président Touté, en qui n'habite point l'âme biblique d'un Salomon, va la trancher d'un coup de glaive, stupéfiant et prodigieux. Le président Touté affirme juridiquement « Un visage est une propriété, la propriété de celui à qui il appartient. »« Peut-être, répond le peintre, un visage peint est surtout, je pense, la propriété de celui qui le peignit. Mais je ne chicane pas. J'admets qu'il soit une propriété. Mais j'ai effacé le visage litigieux et je l'ai remplacé par un autre visage qui, lui aussi, serait une propriété. » Soit, insiste le président Touté, mais il y a une robe, et la robe d'une femme est aussi la propriété de cette femme. Je le pense bien, mais j'ai changé aussi la robe. Soit, mais il y a un canapé sur lequel ce visage et cette robe sont assis, et vous ne pouvez nier qu'un canapé soit aussi une propriété. J'ai changé aussi le canapé. Mais vous avez donc tout changé ? Tout ? Alors, il ne reste rien de l'ancien portrait ? Rien ! Un silence, et le président Touté ordonne. Premièrement, que le peintre vous restitue le portrait, qui n'est plus le portrait de votre femme. Deux, qu'il vous restitue aussi l'argent du portrait, intégralement. Trois, qu'il vous paie les intérêts à 5% de cet argent, à partir du jour où fut envoyé le premier papier timbré. Quatre, qu'il vous paie, en outre, 1 000 francs de dommages-intérêts. 5. Qu'il se félicite de n'avoir pas été condamné au bagne ou même à la peine de mort, peine d'ailleurs qui ne ressortissait pas à la compétence du tribunal, ce qui est regrettable en l'espèce et constitue une fâcheuse lacune. Et le tour est joué. Vous êtes maintenant sur la voie de la grande fortune. Il ne vous reste plus qu'à commander, sous la protection du président Touté, le portrait de votre femme, de votre fille, de votre maîtresse, ou le vôtre, à tous les peintres, à tous les statuaires, à tous les aquarellistes, pastellistes, aquafortistes, lithographes et graveurs. Cela vaut mieux, cela est plus élégant pour un homme du monde qui se respecte, que de toucher des pots de vin dans les Panamas et de se faire entretenir par des restaurateurs, tailleurs, entraîneurs et jockeys. Et je me rends compte de l'immense regret qui dut envahir l'âme des deux frères Coquelin à la lecture de cet admirable arrêt. Avec quelle amère tristesse ils durent faire chacun la récapitulation de leurs 3 644 portraits et se dire, en additionnant les dommages et intérêts du président Touté au prix d'amis dont ils soldèrent l'infinie répétition de leurs images glorieuses, ça nous ferait aujourd'hui une fortune de plus de 10 millions. Rêvons. Le journal, 24 mai 1895.